France Inter.
Franceinter.com.
Autopsie d'un massacre, 8 jours après l'embuscade qui a coûté la vie à 10 soldats français en Afghanistan, le chef d'état-major des armées, Jean-Louis Georgelin, expliquait que le drame de lundi dernier nous a fait redécouvrir la guerre.
D'histoire. Le 18 août dernier, la mort de 10 soldats français en Afghanistan nous a fait redécouvrir une guerre dont on ne parlait presque plus depuis 7 ans et qui commençait le 7 octobre 2001. Ce jour-là, devant les micros et les caméras du monde entier, le président des États-Unis annonçait le début de l'opération Enduring Freedom, liberté immuable. Au même moment, la flotte américaine qui croisait dans le golfe Persique lançait une 40aine de missiles Tomahawk sur les villes de Kandahar, Kaboul et Jalalabad et sur les camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Quelques jours après les attentats du 11 septembre, personne à l'époque ne contestait la légitimité de cette opération contre le terrorisme. Elle était soutenue par la quasi-totalité de la communauté internationale. Personne non plus ne doutait de son succès. France Inter, Philippe Habitboul, le 7 octobre 2001.
France Inter. La guerre contre le terrorisme, liberté immuable a donc commencé. Les troupes américaines sont désormais engagées en Afghanistan. Ce soir, Kaboul, la capitale afghane, a été attaquée par plusieurs avions. Le président George Bush, vous le disais, est en train de s'adresser au peuple américain pour lui annoncer le début de l'intervention. George Bush.
Sur mon ordre, l'armée américaine a commencé à bombarder les camps d'entraînement d'Al-Qaïda et les installations militaires des talibans en Afghanistan. Ces actions ciblées visent à empêcher que l'Afghanistan serve de base aux terroristes et à anéantir les moyens militaires du régime taliban.
Patrick Dombrovski, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur du Centre européen de recherche sur l'Asie, Median. Alors, on vient d'entendre George Bush annonçant le 7 octobre 2001 le début d'une guerre qui dure depuis si longtemps qu'on a fini par en oublier un peu les origines. Vous les rappelez dans un livre, Géopolitique du Nouvel Afghanistan, qui a été publié en 2005 aux éditions Ellipse. Mais à ce moment-là, vous sembliez assez optimiste sur l'avenir de l'Afghanistan, en tout cas sur le succès de cette opération déclenchée en 2001. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ?
Alors, pour répondre tout de suite, non, pas vraiment. L'afghano-optimisme, c'est sérieusement tenté d'un petit peu de pessimisme maintenant. Cela dit, il y a 3 ans, ce n'était pas tellement sur les succès militaires de l'opération que j'étais un peu plus optimiste, mais sur les chances et les capacités de l'Afghanistan à se reconstruire. Les succès militaires, à mon avis, étaient, même si la guerre était bien évidemment légitime, au moment où elle a été lancée, ne serait-ce que pour les raisons qui ont fait que le président Bush a décidé qu'elle aurait lieu, cette opération militaire a pâti d'entrée de jeu d'un gros handicap, c'est qu'il n'y avait pas de but de guerre clairement établi. Bon, d'accord, arrêter Mollah Omar, si possible réussir à avoir Ben Laden, ce ne sont pas en soi des buts de guerre suffisants. Ce qui veut dire que dès le départ, la communauté internationale, quasiment unanime, vous l'avez rappelé, s'est lancée dans un conflit sans savoir exactement qu'est-ce qu'elle allait y faire.
Et puis dans un pays quand même qui a une longue tradition de guerre, lorsqu'elle commence en 2001, en fait l'Afghanistan sortait déjà d'abord d'une longue guerre civile, de 5 ans de présence des talibans au pouvoir, mais aussi avant de la guerre contre l'URSS et encore avant au 19e siècle et au début du 20e, l'Angleterre s'était cassé les dents en Afghanistan. C'est pas un pays où les étrangers sont facilement, qui est facile à occuper, Philippe Dombrovski. Patrick Dombrovski, pardon.
Et si on veut faire l'unité en Afghanistan, il suffit d'envoyer des soldats étrangers sur place. Hein. Il est évident qu'à partir de ce moment-là, toutes les ethnies, tous les clans, pas forcément d'ailleurs entre le nord et le sud du pays, mais à l'intérieur d'une même région, toutes les raisons d'en vouloir à son voisin, à un clan, à une famille, et Dieu sait, le pouvoir familial sur place est très important, toutes ces raisons s'estompent automatiquement devant l'ennemi étranger. Alors effectivement, vous l'avez rappelé, les Anglais ont subi en Afghanistan Afghanistan les plus sévères défaites de leur histoire coloniale, et pourtant Dieu sait qu'ils étaient de bons colonisateurs.
Ils avaient colonisé l'Inde, mais l'Afghanistan, ils n'ont jamais pu y entrer.
Exactement. Quand ils sont entrés, il n'y a pas grand monde qui a pu en ressortir debout, et c'est surtout ce qui a été le plus traumatisant. Les Russes, dès le début du XXe siècle, ont eu les mêmes problèmes. Les Soviétiques, que ce soit dans les années 30 avec Staline, ou que ce soit à partir de l'intervention directe de 1979...
Avec 150 000 hommes, il y en a 70 000 aujourd'hui, la coalition représente 70 000 hommes, il y en avait deux fois plus du temps des Soviétiques.
Il y en avait deux fois plus, qui n'ont même pas réussi à contrôler ce que le haut commandement soviétique avait décidé de contrôler, c'est-à-dire surtout pas la totalité du pays, mais seulement les grandes villes et les grands axes de circulation. Le reste, on l'a négocié directement avec les chefs tribaux locaux, à savoir le fait qu'il ne pourrait pas y avoir d'insurrection générale. Et de fait, l'insurrection, la lutte contre les Soviétiques, s'est limitée à toute la partie nord-est du pays avec le commandant Massoud.
Et puis donc, en 2001, une intervention américaine justifiée par les attentats du 11 septembre qui venaient dont les ordres venaient, si je puis dire, d'Afghanistan, puisqu'Al-Qaïda y était sous la protection des talibans, les Américains et une très vaste coalition. C'est là, d'ailleurs, où ça intéresse le débat qui se déroule actuellement au Parlement, avec la présence de la France. En fait, contrairement à ce qui s'est passé ultérieurement en Irak, les États-Unis peuvent compter sur presque la totalité de la communauté internationale, Patrick Dombrovski.
Oui, en 2001, effectivement, les moments d'émotion qui ont suivi les attentats du 11 septembre, tout le monde était d'accord avec les Américains pour punir l'agresseur. Il faut bien noter qu'en l'occurrence, l'agresseur n'est pas l'Afghanistan. Et si la guerre s'est faite en Afghanistan, c'est parce que l'agresseur s'y trouvait. Donc, on n'est pas tout à fait dans un parallèle avec les situations qu'on évoquait il y a un instant, les Britanniques, puis les Soviétiques, etc., qui, eux, en voulaient directement au territoire afghan et à la souveraineté de l'État afghan. Là, non, le pouvoir des talibans était menacé en tant que protecteur de Ben Laden et des structures d'Al-Qaïda présentes en Afghanistan, mais ce pouvoir n'était pas la cible principale de la guerre. Et donc, ça a changé un petit peu quelque chose. Et je pense qu'une large partie du soutien unanime qu'il y a eu, certes, c'est l'émotion du 11 septembre, mais c'est aussi le fait que ce n'était pas présenté, contrairement là encore à l'Irak en 2003, ce n'était pas présenté comme une agression contre un État.
D'ailleurs, à telle enseigne d'ailleurs qu'une partie des Afghans eux-mêmes a lutté aux côtés des États-Unis, c'est le cas de l'Alliance du Nord qui était la première à entrer dans Kaboul un mois après le déclenchement de la guerre. France Inter, Denis Astagnaud, le 13 novembre 2001.
Kaboul ce matin, ce n'était pas des coups de feu qu'on entendait dans les rues de la capitale afghane, mais ceci. Eh oui, la musique diffusée par des haut-parleurs sur des camions de l'Alliance du Nord, une musique qui était proscrite depuis plusieurs années par les talibans, comme étaient proscrits le rire, les oiseaux et le visage des femmes. Mais les talibans sont partis, les forces de l'Alliance du Nord qui avaient pris position aux portes de la capitale afghane hier soir sont entrées ce matin pratiquement sans combat. Jacques Chirac lui se félicite de ce succès militaire, même s'il sait que la lutte antiterroriste n'est pas terminée. On l'écoute.
Notre détermination a été payante. Il faut donc poursuivre. Notre objectif essentiel n'est pas seulement la défaite des talibans, c'est également l'éradication du terrorisme et d'Al-Qaïda et de ceux qui les protègent. Ceci implique, bien entendu, une accélération de la recherche d'une solution politique qui permette d'assurer la stabilité en Afghanistan.
Alors l'éradication du terrorisme et aussi la recherche d'une solution politique, c'est ce que disait Jacques Chirac il y a 7 ans, c'est ce que l'on affirme vouloir faire encore dans ce pays, d'où la présence d'ailleurs, on l'oublie parfois, de deux forces. Il y a d'une part les forces visant à éliminer le terrorisme, ce qui, on le sait, ne s'est pas produit. Il suffit de voir ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a même 3 jours au Pakistan, mais aussi une force de maintien de la paix des Nations Unies, la FIAS, hein, Force Internationale d'Assistance et de Sécurité, qui, elle, est chargée, comme son nom l'indique, de maintenir la paix. Et à laquelle participe la France, et qui est sous commandement de l'OTAN, je crois, Patrick Dombrovski.
Voilà, avec le gros handicap qu'a cette force, c'est que territorialement, son territoire d'expansion ou de contrôle, c'est essentiellement Kaboul. Ça a longtemps été uniquement Kaboul, maintenant ça a été un petit peu élargi autour de la capitale et dans certaines grandes villes, mais la FIAS n'a pas une compétence d'action territoriale sur l'ensemble du territoire afghan. Je crois d'ailleurs que c'est heureux, parce que je ne suis pas certain qu'elle aurait la possibilité ni les moyens, même en augmentant le nombre des soldats, qu'elle aurait les moyens de contrôler la totalité du pays. Il faut quand même rappeler avec l'Afghanistan que c'est un pays qui, territorialement, est plus grand en territoire que la France. Parce qu'on se dit, bon, petit pays centra-asiatique, tout ça. Non, c'est quand même un pays qui, certes, n'a que 25-26 millions d'habitants, mais qui, territorialement, c'est un territoire qui est plus grand que celui de la France métropolitaine. Ce qui est quand même pas rien à contrôler, avec un relief absolument inimaginable pour pouvoir réussir à contrôler les axes de circulation.
Oui, qui est assez. Qui, d'ailleurs, à cause de ce relief, est un pays très morcelé, y compris sur le plan ethnique, et puis qui, à cause de ce relief, est un pays qui est difficile à occuper.
Y compris par le pouvoir central, d'ailleurs, quel que soit ce pouvoir central.
Alors, un pouvoir central qu'il est aussitôt, que l'on cherche aussitôt à remplacer par ce que n'a jamais connu véritablement l'Afghanistan, et un régime démocratique, c'est ce qui s'est discuté début décembre à Bonn. C'est là qu'est conclu effectivement un accord entre toutes les parties prenantes, enfin toutes les familles politiques afghanes, sauf les talibans. Patrick Dombrowski.
Sauf les talibans, ce qui était politiquement une évidence en 2001, il aurait été impensable de les asseoir à la table des négociations, ce qui aujourd'hui en 2008 ne me paraît plus forcément, mais on y reviendra peut-être, une aussi grande évidence. Mais en tout état de cause, oui, était-ce réellement l'instauration d'un système démocratique qui était discuté à Bonn? Je n'en suis pas certain du tout pour ma part. Je pense que c'était tout simplement la résurrection des institutions afghanes, c'est-à-dire la remise sur pied d'un État qui, vous l'avez dit tout à l'heure, avait été détruit par un quart de siècle de guerres multiples, essentiellement guerres civiles, mais pas uniquement, et donc un État qui avait disparu, en fait, des structures politiques qui avaient disparu.
Et un gouvernement transitoire, donc, qui était incarné par un homme, dirigé par un homme, Hamid Karzai, reçu solennellement à Washington par George Bush le 22 décembre 2001.
We welcome the distinguished interim leader of a liberated Afghanistan, Chairman Hamid Karzai.
Le nouveau maître de l'Afghanistan s'appelle Hamid Karzai. Le président désigné du gouvernement intérimaire a prêté serment ce matin à Kaboul. Reportage de Manuel Ruffez.
Ce soir, depuis quelques heures à peine, Hamid Karzai est le nouvel homme fort de l'Afghanistan. Il a prêté serment, juré au nom d'Allah de respecter les préceptes de l'islam. Après sa carrière militaire dans les forces d'opposition aux Russes, puis aux talibans, Hamid Karzai a aujourd'hui 6 mois pour faire ses preuves et réussir sa carrière politique.
La priorité numéro un est de maintenir et faire perdurer la paix et la stabilité en Afghanistan et de donner au peuple afghan une chance de vivre vraiment en paix. Nous devons reconstruire les infrastructures, relancer les industries et l'agriculture, les écoles, les hôpitaux. Il n'y a pas un secteur où l'Afghanistan n'a pas besoin d'assistance.
Et c'était Hamid Karzai qui gouverne donc l'Afghanistan depuis 7 ans, d'abord comme chef d'un gouvernement transitoire, vous le rappelez dans votre livre, Patrick Dombrowski, et puis comme chef de l'État démocratiquement élu en 2004. D'où vient-il? Comment le choix s'est-il porté? Un choix presque unanime de toutes les familles politiques, sauf les talibans, s'est-il porté sur Hamid Karzai?
Vous savez, les principaux belligérants, que ce soit les belligérants afghans ou que ce soit les belligérants extérieurs, une fois que le pouvoir des talibans, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et ça a été rappelé dans l'historique que l'on a entendu, les talibans ont laissé le pouvoir sans combattre, ils sont partis, tout simplement. Le pouvoir a été pris parce qu'il n'y avait plus personne pour l'occuper. Le cahier des charges a été dressé de qui pouvait bien pouvoir reprendre l'Afghanistan. Il lui fallait un certain nombre de qualités. Il fallait bien évidemment qu'il fût pachtoun, parce que c'est l'ethnie majoritaire du pays, et largement majoritaire. On le rappelle trop peu. Il fallait qu'il n'ait pas trop trempé dans les années de la guerre civile, qu'il n'ait pas trop d'inimitié autour de lui. Si on pouvait lui trouver une petite ascendance proche de la famille royale, c'était pas plus mal. Il fallait de préférence.
Oui, c'était une monarchie, il faut le rappeler, l'Afghanistan.
Voilà,
avant
le début des guerres, c'était une monarchie. Et finalement, le facteur monarchique est pratiquement le seul, avec celui qu'on évoquait de la présence de soldats étrangers, qui fasse l'unanimité. Il fallait également que ce soit quelqu'un qui n'ait pas trop de sang sur les mains, ni trop trempé dans les trafics divers et variés. Il n'y a pas grand monde qui répondait à ça. Il y avait 3 personnes, en fait. Le roi, mais le roi avait 91 ans. Pouvait-on confier la restauration, la résurgence d'un pays à quelqu'un de 91 ans? Bon, bien sûr, aujourd'hui, on sait qu'il vit encore, mais on ne le savait pas en 2001. Il y avait un autre chef pachtoun très important qui s'appelait Abdul Haq, mais il a eu la mauvaise idée d'être attrapé par les talibans peu avant leur chute et d'avoir été pendu, ce qui évidemment terminait son destin politique et restait Hamid Karzai. Donc, je ne dirais pas qu'on s'y résignait, mais disons qu'il n'était pratiquement le seul à pouvoir réunir toutes les qualités qu'il fallait que le nouvel chef afghan réunisse.
Et élu donc président en 2004, à la suite de la promulgation d'une constitution, une expérience nouvelle aussi pour l'Afghanistan.
Il y a eu quand même une première constitution en 1965 qui était déjà une constitution très inspirée par la France, puisque les conseillers du roi de l'époque étaient venus la faire rédiger par des constitutionnalistes français qui venaient de travailler sur le projet de la Ve République. Donc l'aspect constitutionnel n'était pas nouveau. J'aurais presque tendance à dire, mais en poussant volontairement le bouchon un peu loin, que le fait que Hamid Karzai ait été élu président de la République démocratiquement en 2004 n'a strictement rien pesé dans son pouvoir local. Au pire, c'est le même aliéné certaines personnes qui ont dit « Regardez, il rentre dans le jeu des institutions afghanes ». Ce qui a compté en revanche beaucoup plus, c'est dès l'année 2002, c'est le fait qu'il était son pouvoir ait été reconnu lors de ces grandes assemblées traditionnelles, au nom imprononçable
de Yajirga,
qui ont vu tous les chefs tribaux, tous les chefs claniques, tous les chefs ethniques qui comptent en Afghanistan, lui reconnaître au sens féodal, comme l'Europe fut féodale au XIIe siècle, lui ont reconnu le pouvoir. Et ça, dans la mentalité collective afghane, ça a été beaucoup plus important que l'élection de 2004, qui n'était jamais que le décalque dans un pays à plus de 80% analphabète. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, des élections présidentielles et législatives libres?
En tout cas, un président élu dans un contexte extrêmement difficile. L'Afghanistan est ravagé quand il devient président, non pas par quelques mois ou quelques semaines de guerre après l'intervention des États-Unis, mais par des années de guerre, puisqu'il faut commencer toute cette série entre la guerre contre les soviétiques puis la guerre civile. Ça fait plus de 20 ans de guerre, donc dans un état terriblement, ravagé, et avec une aide massive que doit apporter en grande partie donc l'étranger, Patrick Dombrowski.
Une aide massive que promet la communauté internationale. Il faut voir que plus de 50 milliards de dollars ont été promis depuis 2001 à l'Afghanistan. Moyennant quoi, il y en a à peu près seulement 20% qui ont été versés aujourd'hui, parce que les pays estiment qu'en fournissant des soldats, c'est une manière de payer cette aide, etc. Et puis parce qu'on verse toujours beaucoup moins que l'on ne promet. Donc il y a une très forte somme qui a été promise, effectivement. L'autre inconvénient de ce type d'aide, c'est que bien souvent, il y a un taux d'évaporation extrêmement élevé.
Oui, il y a la corruption.
La corruption n'est pas uniquement le taux de fonctionnement. Quand les ONG s'installent sur place, 80% de leur budget part dans le logement, la sécurité, la nourriture, tout simplement, les moyens de transport, les moyens de téléphone, de fax, etc. Même chose quand les médias s'installent, même chose quand les ambassades s'installent. Alors, on ne peut pas pour autant dire qu'il ne faut pas qu'elle soit là, mais si 80% du budget part dans les frais de fonctionnement, ça veut dire qu'il n'y en a que 20% qui restent pour l'action. Sur ces 20%, il y en a une bonne moitié, effectivement, qui part dans le réseau de corruption, donc 10%. 10%, ça ne fait pas beaucoup pour l'Afghan de base.
Les ONG, dont le rôle est considérable, d'ailleurs, qui étaient déjà présentes avant, dès l'époque soviétique, assez nombreuses, vous en rappelez certaines, avec des rôles très spécialisés, l'aide médicale d'urgence avec MSF, la défense des droits de l'homme avec Amnesty International, également une association importante, Solidarité, qui participe à la reconstruction, au développement, à la construction de canaux en Afghanistan, et des ONG d'ailleurs dont l'action est entravée par le retour des talibans. France Inter, Pierre Veil, le 27 juin 2006.
Le dossier de la rédaction, la situation en Afghanistan avec Emmanuel Leclerc. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Il y a deux mois, toutes les forces spéciales occidentales engagées dans le sud et l'est de l'Afghanistan ont lancé l'opération Assaut contre la montagne, leur cible Al-Qaïda et surtout les talibans qui n'avaient jamais été vraiment délogés de cette région depuis la chute du régime des Mollahs fin 2001. L'OTAN est fortement engagée.
Oui, presque une deuxième guerre d'Afghanistan pour les États-Unis et leurs alliés, dont la France, dans une région qui jamais dans l'histoire du pays n'a pu être contrôlée par une force extérieure. Au grand dam de Lakhdar Brahimi, l'ancien représentant de l'ONU en Afghanistan, il n'a pas mâché ses mots lors d'un entretien accordé à Christian Chéneau.
Les talibans n'ont jamais signé une reddition. On n'a jamais posé ces questions. Où sont passés les talibans qui gouvernaient 90% de l'Afghanistan? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est clair qu'ils étaient en train de se réorganiser.
Et de se réorganiser au point d'ailleurs de contrôler, dit-on aujourd'hui, la moitié de l'Afghanistan, Patrick Dombrowski.
Au moins que ça, en réalité, d'une part, territorialement, ça doit correspondre à un gros tiers, on va dire 35% pour pouvoir faire un chiffre. Et encore, je ne suis pas certain qu'ils le contrôlent. mais ils empêchent qui que ce soit de le contrôler. Et c'est ça qui est important, puisque ce qui que ce soit, c'est bien évidemment avant tout le pouvoir central.
Mais comment expliquer leur retour ? Ils avaient été chassés de Kaboul, enfin vous dites qu'ils étaient partis d'eux-mêmes en 2001, mais comment expliquer, malgré la brutalité, la dureté du régime qu'ils avaient imposé à l'Afghanistan, qu'aujourd'hui, eh bien, ils aient repris une telle importance, Patrick Dombrowski ?
On va être obligé de tenir des propos non politiquement corrects, là, hein, mais
c'est, un peu le risque.
C'est un peu le risque. Bah, tout simplement, il y a une phrase tout à l'heure qui a été dite dans un des reportages et que l'on oublie trop, c'est que les talibans, et qui est une véritable... Je m'étonne qu'on ne se pose pas plus souvent la question, parce que c'est un peu une énigme pour un esprit cartésien. Voici un régime détestable, un régime qui prend un certain nombre de mesures qui nous révulsent, nous occidentaux, et qui reste quand même pendant 5 ans au pouvoir, sans que l'on puisse constater, en dehors de l'insurrection du Nord-Est menée par Massoud, que l'on puisse constater le moindre sentiment de révolte. Il n'y a pas eu de gros mouvements de révolte. Il n'y a pas eu à Kaboul l'équivalent de la place de Tiananmen au même moment en Chine. Donc, pourquoi ? Et je crois qu'on aura fait un grand pas en avant le jour où nos décideurs se mettront enfin à réfléchir à ce pourquoi. Le pourquoi, il est tout simplement que les talibans ont été crédités d'une chose essentielle dans l'Afghanistan de 1996, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont ramené la paix. À l'exception donc toujours de ce nord-est du pays, mais extrêmement confiné dans les montagnes du Badakhshan. La paix, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire la possibilité de refaire du commerce, la possibilité de se redéplacer, la possibilité d'avoir des échanges à l'intérieur de l'Afghanistan, pas trop vis-à-vis de l'étranger, certes, mais c'est ça qu'ils ont apporté. C'est-à-dire, en gros, ils ont apporté un semblant de vie normale. Alors, si le prix à payer pour cela était des atteintes aux droits de l'homme, atteintes parfois très dures à accepter, notamment les atteintes aux droits de la femme, ne vous m'étrevenez pas sur ce que je veux dire, mais ça n'a pas tellement choqué la société oui. Pashtoune. Et je crois qu'une des raisons principales du retour des talibans, c'est que finalement, sur cet aspect-là, ils ne sont pas discrédités par rapport à la mentalité collective du pays.
Le retour à partir d'où ? Du Pakistan, hein, essentiellement, pour grand entrée. D'ailleurs, sont-ils tous, on dit souvent que ce n'est pas le cas, sont-ils tous des Afghans, Patrick Dombrowski ?
Il y a deux choses, en fait. Vous avez d'une part les talibans qui ont quitté le pouvoir en 2001, qui effectivement, pour la plupart, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont rentrés dans leur village. Ils ont taillé ou raccourci leur barbe, ils ont changé la couleur de leur turban, le fameux turban noir des milices talibanes a disparu, ils ont gardé leurs armes, il faut quand même être prudent, et donc à partir du moment où le sort des armes leur paraît à nouveau favorable, à partir du moment où ils sentent qu'il y a ce que les stratèges américains appellent une fenêtre d'opportunité, ils reprennent leurs armes et ils repartent au combat. Donc ça, c'est une partie des combattants. L'autre partie, ce sont effectivement ces éléments importés que vous évoquez, qui sont pour partie des Arabes, qui viennent de la mouvance Al-Qaïda, des Tchétchènes également, quelques Ouzbeks et quelques Ouïghours qui ne peuvent pas, dans leur propre pays, mener d'insurrection. Bref, cette mouvance, cette sorte, le mot n'est absolument pas adéquat, mais c'est celui qui me vient à l'esprit, cette sorte d'international islamiste qui s'est mise en place autour d'Al-Qaïda.
Et puis il y a aussi l'opium, de quoi vivent-ils ? Ils l'avaient éradiqué, interdit, du temps où ils étaient au pouvoir, là ils en profitent, d'ailleurs l'Afghanistan, on le rappelle souvent, c'est 92% de la production mondiale d'opium qui est largement exportée, dont les revenus évidemment permettent aux talibans de s'armer. Et puis il y a aussi l'impopularité des alliés, on l'oublie un petit peu, mais contrairement à ce que disait George Bush en 2001, les frappes ciblées, eh bien elles tapent très souvent sur des Afghans, et il se trouve que de plus en plus, on le constate, les forces libératrices, enfin qui se présentaient comme telles en 2001, sont considérées comme des forces d'occupation bien souvent aujourd'hui, Patrick Dombrowski.
Oui, c'est un fait. Elles sont bien souvent là. Alors, sur l'opium, juste un mot, il faudrait presque faire toute une émission dessus. Sur l'opium, c'est bien évidemment tout un chapitre. C'est bien évidemment le problème principal pour la résurrection et la reconstruction de l'Afghanistan. Cette reconstruction nécessite beaucoup d'argent. L'opium produit beaucoup d'argent, mais le problème, c'est qu'il n'est pas utilisé à la reconstruction. Les talibans l'avaient effectivement interdit en 2000, et ça a été spectaculaire. De plus de 2000 tonnes à l'époque, la production avait été l'année suivante de seulement quelques centaines de tonnes et qui avait d'ailleurs pour la plupart été cultivées dans les zones du nord-est. Cela dit, on ne peut pas totalement exclure, c'est même probablement leur motivation principale, qu'à l'époque ils aient voulu assécher un peu le marché pour faire remonter les cours. hein, parce qu'il y avait des stocks considérables, donc qui venaient des productions des années précédentes. Donc on manque de recul, puisqu'ils ont été destitués à la fin de cette année 2001, on manque de recul pour savoir si leur engagement anti-opium aurait été durable ou aurait été simplement conjoncturel. Reste qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la source de financement de la guerre. Donc dans un pays qui a toutes les infrastructures détruites, qui a d'énormes stocks d'armes, et où il y a cette manne financière gigantesque, la guerre civile ne peut que durer.
Et la popularité des troupes de la coalition aujourd'hui, Patrick Dombrovski?
À l'impopularité normale qu'il y a vis-à-vis de toute forme de soldats étrangers présents sur le sol afghan, se rajoutait bien évidemment l'impopularité due à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les erreurs, hein, les bavures qui sont faites lors des bombardements, par exemple.
Et parmi ces soldats, bien l'armée française, qui par la voix de son président réaffirmait il y a quelques mois son intention de maintenir des troupes en Afghanistan. Nicolas Sarkozy le faisait au Congrès des États-Unis le 7 novembre 2007.
La France est l'amie des États-Unis d'Amérique. Depuis que les États-Unis sont apparus sur la scène du monde, nos deux peuples ont toujours été amis. Je vous le dis solennellement aujourd'hui, la France restera engagée en Afghanistan aussi longtemps qu'il le faudra. Car ce qui est en cause dans ce pays, c'est l'avenir de nos valeurs et celui de l'Alliance Atlantique. Je le dis solennellement devant vous, l'échec n'est pas une option. Le terrorisme ne gagnera pas, car les démocraties n'ont pas le droit d'être faibles et parce que le monde libre n'a pas peur de cette nouvelle barbarie. L'Amérique peut compter sur la France dans le combat contre le terrorisme.
L'échec n'est pas une option, le terrorisme ne gagnera pas. C'était Nicolas Sarkozy en novembre 2007, quelques mois avant d'augmenter les effectifs français en Afghanistan en envoyant 700 hommes supplémentaires. On sait ce qu'il en était devenu. Quel est l'avenir de ce pays, surtout de cette option qui semble de plus en plus militaire aujourd'hui, Patrick Dombrovski?
L'option est de plus en plus militaire. Le combat militaire ne gagnera pas la guerre de toute façon. Tout simplement parce qu'à mon avis, les talibans ne veulent pas, et ça c'est une grosse erreur conceptuelle que l'on fait, les talibans ne cherchent pas à reconquérir le pouvoir à Kaboul. Donc on est en train de lutter militairement et politiquement contre un mouvement que l'on conçoit comme un parti cherchant à prendre le pouvoir, comme cela se fait dans beaucoup de pays du monde, alors qu'en fait je pense sincèrement que le mouvement des talibans, non générique pour dire tous les mouvements que l'on a évoqués tout à l'heure qui gravitent autour d'Al-Qaïda, ce mouvement-là cherche en fait à faire une poche d'insécurité maximale pour l'Occident, qui, jumelé à la poche d'insécurité irakienne, si possible jumelé avec d'autres zones de troubles plus proches de nous au Proche-Orient et de l'autre côté au Pakistan, multiplie les zones dans lesquelles l'Occident est en défi. Donc ça, c'est extrêmement difficile à combattre et pratiquement impossible à gagner.
Justement, est-ce qu'on ne peut pas comparer cette situation d'enlisement à ce qui se passait naguère au Vietnam ou aujourd'hui actuellement en Irak, Patrick Dombrovski?
Bon, le terme pourrait plaire, le parallèle pourrait plaire. Il est évident que toutes les raisons et toutes les conditions sont différentes, mais on peut garder l'idée. L'enlisement peut-être pas, mais l'incapacité à gagner militairement, tant qu'on restera dans une optique qui consiste à vouloir gagner et abattre militairement un ennemi qui ne cherche pas à conquérir un pouvoir, c'est ça qui sera extrêmement difficile.
Et qui semble de plus en plus fort actuellement, on vient de vous voir.
Et qui se renforce de nos propres faiblesses, bien sûr.
Géopolitique du nouvel Afghanistan, c'est le titre donc de votre livre, mais publié en 2005, auquel il faudrait rajouter ce qui s'est produit depuis. Donc Patrick Dombrovski est publié aux éditions Ellipse. À voir aussi également ce soir sur France 3, l'édition spéciale Afghanistan du 19-20, présenté par Audrey Pulvar, et puis à écouter également sur France Inter à 19h20, le téléphone sonne d'Alain Bédoué, dont le thème sera aussi, bien sûr, en raison de l'actualité, la présence française en Afghanistan, 19h20 sur France Inter. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Julien Chabassu et Rémi Quincet, documentation et archivina Emmanuel Fournier et Claire Destacan, Véronique Jolivet et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous ferons un grand pas en arrière en parlant d'un roi Louis XIII.